Et on va finir avec le dernier paragraphe, inshallah. قال المصنف رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh a fini en disant Allah a suscité dans chaque nation à partir de Nuh jusqu'à Muhammad des messagers qui leur ordonnent d'adorer Allah seul et qui leur interdisent d'adorer le Tarout. Et la preuve de cela est dans le verset suivant, dans sourate An-Nahl, verset 36, dans le sens « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Le mot Tarout signifie « Toute chose par laquelle l'esclave transgresse sa limite dans tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ou suivi ou obéi ». Et les Tawarit, qui est le pluriel de Tarout, sont nombreux. Mais il y en a cinq principaux. Iblis, qu'Allah le maudisse. Deuxièmement, quiconque est satisfait et agrée de se faire adorer. Troisièmement, quiconque appelle les gens à se faire adorer. Quatrièmement, quiconque prétend connaître quoi que ce soit de l'invisible. Cinquièmement, quiconque juge par autre que la loi révélée par Allah. Et la preuve de cela est dans le verset suivant, dans le sens de Sourate Al-Baqarah, verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut pas se briser, et Allah est audient et omniscient. Et ceci est la vraie signification de la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tête de la religion est l'islam, son pilier est la salat, et son point culminant est le combat dans le sentier d'Allah. Cependant, Allah est plus savant, et que les éloges et le salut soient sur Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons. Donc, le cheikh finit par ce point-là. Quand il a déterminé le fait que les messagers ont été envoyés comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, et que leur envoi a été pour toutes les communautés, c'est-à-dire il n'y a pas une communauté sans qu'ils aient eu un messager. Et la prêche et l'appel des prophètes et des messagers se réunit en deux fondements essentiels. Le premier fondement, l'appel à l'adoration d'Allah, dans laquelle se trouve le fait d'interdire le polythéisme. Et ceci est retrouvé dans la parole, ani'budullah, d'adorer Allah. Et l'autre principe fondamental, qui est le fait de s'écarter du tarout, qui renferme le fait d'interdire son adoration. Qui se trouve dans sa parole, وَجْتَنِبُوا الطَّارُوتِ. Donc, ce verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجْتَنِبُوا الطَّارُوتِ, s'y trouve l'objectif pour lequel tous les messagers ont été envoyés, qui était de les avertir, de les motiver à faire le bien, et de les mettre en garde. De leur annoncer la bonne nouvelle et de les mettre en garde. Et quelle était cette annonce? Qui était de s'écarter du tarout et d'adorer Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité qu'il était obligatoire à chaque serviteur, à chaque musulman, de mécroire dans le tawhid et de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a cité le verset dans Surat al-Baqarah qui prouve cela. C'est-à-dire, celui qui mécroit au tawhid et qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, il a certes saisi l'anse la plus solide, qui ne se brise pas. Le tawhid, il peut avoir un sens précis ou un sens général. Quand on dit le tawhid comme ça, on vise Iblis, le shaytan, Iblis, Satan. Il peut avoir un sens plus général qui sont très nombreux. Et ici, il en a cité cinq principaux. Cinq principaux. Quand il dit les cinq principaux, c'est-à-dire les plus dangereux. Les plus dangereux pour les serviteurs. Ceux qui sont les plus dangereux pour les serviteurs. Parmi ces cinq, il a cité en premier lieu Iblis, qui est le tawhid en chef. Iblis. Puis, il a cité celui qui est adoré, celui que les gens ont pris en adoration, et lui, il agrée cela. Même s'il n'a pas appelé les gens à l'adorer. Lui, il ne les a pas appelés à le faire. Les gens le font, et lui, il agrée cela. C'est un tawhid. La troisième catégorie, c'est celui qui prétend connaître une chose de l'invisible. On parle de l'invisible absolu, pas l'invisible restreint. Par exemple, il y a une chose qui peut être invisible pour toi et non pour moi. Ce qui est en dessous de la table. Et si moi je le vois, il est invisible pour toi. Mais pas pour moi. Ça, c'est un invisible restreint. On ne parle pas de ça. On parle de celui qui prétend connaître l'invisible absolu. Ou les choses que seul Allah ta'ala peut connaître. C'est un tawhid. Celui aussi qui appelle les gens à ce qu'on l'adore. Même si les gens ne l'adorent pas. Même si au bout du compte, les gens ne l'adorent pas. Mais il appelle les gens à l'adorer. C'est un tawhid. Aussi, celui qui juge par autre que ce qu'Allah tabaraka ta'ala a révélé. C'est un tawhid. Concernant ce dernier point, c'est un tawhid et il est mécréant s'il considère que ce qu'il fait est légal. C'est-à-dire qu'il a le droit de juger par autre que la loi d'Allah. C'est permis. Ou bien qu'il considère que la loi humaine et la loi d'Allah sont égales, ou que la loi humaine est meilleure, ou que la loi d'Allah ne correspond pas à cette époque, ou bien qu'il considère que la loi d'Allah est meilleure, mais qu'il lui est permis de juger par la loi des hommes. Toutes ces formes qu'on a citées sont de la mécréance majeure selon l'unanimité des savants. Et le cas où c'est de la mécréance mineure, c'est quand il sait que ce qu'il fait est haram, et il ne dit pas que ce qu'il fait est permis, et il ne dit pas que cette loi est meilleure que la loi d'Allah, et il le fait. Alors, il sera pécheur, et il aura fait un kufr d'un kufr. Une mécréance qui n'est pas une mécréance majeure. Et quoi qu'il en soit, il a fait quelque chose de haram, et il a transgressé la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, avec cette définition-là, ou bien on dit que le cheikh ici, quand il a dit « Celui qui juge par autre que la loi d'Allah est un tawhid », il vise les catégories qu'on a citées tout à l'heure parmi les mécréants, ou bien comme certains savants ont dit, quelqu'un peut être un tawhid et ne pas être mécréant. Parmi les tawharit, il y a des mécréants et des non-mécréants. Il y a le pécheur et il y a celui qui est mécréant. Donc si on le comprend comme le cheikh l'a dit ici, et que le statut de celui-ci est la mécréance majeure, dans ce cas-là, ce sera avec les points qu'on a cités tout à l'heure. Qu'il dit que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ou que la loi des hommes est meilleure ou égale à la loi d'Allah, ou que la loi d'Allah est meilleure mais qu'il est permis qu'il juge par autre, qu'il est permis aux hommes de la délaisser. Ça, comme on l'a expliqué, il y a unanimité des savants de l'islam sur la mécréance de celui-ci, majeur. Non. Puis il a cité le hadith, où la tête de cette affaire, c'est-à-dire de la religion, est l'islam, dans le sens, ici, la soumission. Quand il dit l'islam, la soumission, dans son sens général, pas dans son sens précis. La soumission à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de se soumettre à ses ordres, se soumettre à lui, par amour et dévotion, subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, c'est un long hadith de Mu'adh ibn Jabal. Il a plusieurs chaînes de transmission qui sont faibles, mais il peut être renforcé et acceptable avec ces différentes chaînes de transmission. Il est cité dans les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Et avec ceci, on a fini une explication succincte de cette épître. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accepte et qu'il nous permette d'apprendre la science utile et de la mettre en pratique. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.